Bonjour Véronique
Bonjour.
Lévy, c'est un huitième entretien et une deuxième série des clés pour vivre. Alors des clés pour vivre, nous en avons besoin aujourd'hui dans notre société, Véronique. Un monde difficile, on parle de guerre, on parle de maladie, on parle de pandémie, on a connu aussi l'épisode de confinement. Comment garder, je dirais, un cœur ouvert, mais un cœur qui espère et entrer dans l'espérance en vue de l'éternité, et non de l'immortalité, mais de l'éternité.
Oui, alors le sujet, c'est effectivement ce que vous appelez le transhumanisme. Et comment rester dans l'espérance? Mais écoutez, j'ai envie de dire que pour être dans cette espérance, il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas se masquer le visage. Il faut avoir les yeux grands ouverts sur... et c'est pas pour désespérer que j'ai dit et que j'ai rappelé tout ce qui se... Enfin, les derniers, toutes ces tentacules du transhumanisme.
Puis les nombreux massacres en laboratoire.
Enfin, tous ces tentacules du transhumanisme, dont une des tentacules, concerne la génétique et l'eugénisme. Puisque, j'en ai parlé, je l'ai rappelé, le trip réimplantatoire, tous ces embryons sacrifiés en laboratoire, etc. On a dressé un tableau, enfin j'ai parlé de toutes ces tentacules du transhumanisme, qui ne sont pas seulement le remplacement de l'homme par ChatGPT ou par ces robots conversationnels, ça va beaucoup plus loin, et ça depuis les années... Depuis l'autorisation de la procréation médicalement assistée, il y a eu déjà, de fil en aiguille, jusqu'à l'aboutissement de cette loi du 2 août 2021, des lois de plus en plus eugénistes, qui modifient de plus en plus le génome humain. Et donc, on arrive vraiment aujourd'hui, on se rend compte que l'être humain, le génome humain, le cerveau humain, comme le proposait M. Yuval Noah Harari, qui est un... Voilà, qui est le maître à penser de Klaus Schwab, qui parlait de pirater le cerveau humain. Il y a notre génome, lui aussi, est piraté. Donc le tableau est sombre. Comment rester dans l'espérance? Déjà, il faut bien regarder cette réalité en face, mais ne jamais perdre de vue que, comme Jésus nous l'a dit, j'ai vaincu le monde. Le monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Il nous le dit ailleurs. Donc il ne faut pas perdre de vue que ce monde... dont le prince et Satan, et ça encore c'est Jésus qui nous le dit, c'est pas moi, ils disent le prince de ce monde, il est vaincu le prince de ce monde, Jésus nous le dit, quand il va vers la croix. Donc oui, tout est fait pour nous désespérer, le constat est très sombre, le génome est déjà colonisé. La conscience humaine est en passe de l'être par la neuroscience, etc. Alors comment croire encore que Dieu a vaincu le monde? Parce qu'il l'a déjà vaincu. Et la preuve, c'est qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui en prennent conscience, des gens qui dénoncent tout cela, des gens qui ouvrent les yeux, des gens qui refusent de se laisser pirater par toutes ces... complètement par ces technologies qui veulent... des gens qui nous disent encore que ces nouvelles technologies peuvent rester au service de l'homme, comme le proposait... certains religieux, notamment le pape François. Il ne faut pas perdre de vue que Dieu a vaincu cet esprit du monde et que tout cela est transitoire. Nous ne sommes pas appelés, nous sommes appelés à la vie éternelle, nous sommes appelés à rejoindre le Christ. Et la victoire du diable, la victoire du mal, serait de nous faire perdre le souvenir de Dieu, de couper complètement cette mémoire de Dieu que nous portons dans notre génome. C'est pour ça qu'ils veulent fabriquer des gamètes artificielles, pour que les embryons ne soient plus créés dans un acte d'amour, dans une communion d'amour entre l'homme et la femme, comme le rappelait tant et tant de fois Jean-Paul II dans son merveilleux livre, dans ses merveilleuses conférences sur l'union sponsale. Mmh. Il voudrait fabriquer un homme en laboratoire, et c'est déjà le cas, puisqu'aujourd'hui, la libéralisation de la recherche sur l'embryon a été actée, qu'on fabrique des gamètes artificiels, mais, il faut qu'il y ait des résistants à cela. Et être chrétien, c'est résister.
Alors comment entrer très concrètement en résistance ?
Concrètement, c'est en étant au courant, en refusant de rentrer dans l'utopie de l'homme parfait, qui est en fait une dystopie, comme dans Le Meilleur de Monde d'Aldous Huxley, de refuser de rentrer dans cette société de surveillance et d'essayer de se préserver de ce viol aussi, quelque part, de notre conscience, de notre corps. Et il y a des chrétiens, et beaucoup, qui refusent cela, qui veulent rester humains. L'enjeu des siècles à venir, s'il nous reste beaucoup de siècles avant le retour du Christ, c'est de rester humain. Et c'est ça le combat de l'Apocalypse dont il est question dans le dernier combat de l'Apocalypse. Il est question des faux prophètes. Les faux prophètes, ce ne sont pas, comme beaucoup le disent, un homme politique particulier ou certains religieux. Non, c'est pas ça. C'est un système extrêmement séduisant qui se mettra à la place du Christ, qui nous parlera de guérir les paralysés, de faire marcher les paralysés, de faire parler les sourds et les muets, de ressusciter les morts, par la science qui sera aux ordres de l'économie et des plus puissants, et pas aux ordres de l'amour, et pas ordonnée à l'amour, et qui sera un message qui ne sera pas du tout le message du Christ. Parce que le Christ ne nous parle pas de réanimation, il ne nous parle pas d'une vie en sursis réservée pour les plus riches d'entre nous. Le Christ nous parle de la vie éternelle pour tous, et surtout pour ceux qui l'auront suivi, c'est-à-dire pour ceux qui auront accepté de perdre le pouvoir, de risquer la vie, de risquer leur vie finalement, pour l'avoir en plénitude, la recevoir en plénitude. C'est une vie de vivant, parce que c'est une vie dans l'amour. Une vie qui veut tout contrôler, on l'a vu pendant le Covid, à force de vouloir tout contrôler, on était plus des vivants. On était, à force de craindre la mort, on ne vivait plus, en fait. Donc, vivre, c'est aussi prendre le risque de cette vie. Jésus, il ne connaissait pas la distanciation sociale, le Christ. Quand j'ai vu qu'au Canada, certaines églises demandaient le pass sanitaire, le cœur m'en est tombé. Dans certaines églises au Canada, un évêque du Canada demandait le pass sanitaire pour pouvoir assister à des messes dans des églises. Est-ce que vous imaginez le Christ? Mais c'est presque un péché pour moi contre l'Esprit Saint de demander une chose pareille. Le Christ ne connaissait pas la distanciation sociale. Le Christ prenait sa salive et la posait sur les yeux des aveugles pour les faire voir. Il prenait de la boue qu'il mélangeait à sa salive. Il touchait. Il se laissait toucher par la pécheresse repentie par Sainte Marie-Madeleine. Il s'est laissé oindre les pieds par les cheveux de Marie-Madeleine. Il a recueilli ses larmes. Il touchait les gens. Le baiser aux lépreux de Claudel. C'est ça le génie du christianisme. C'est ne pas avoir peur de la mort. Un chrétien qui a peur est un chrétien mort. On dit un chrétien seul est un chrétien mort. Mais moi je dis un chrétien qui a peur est un chrétien mort. D'ailleurs, Jean-Paul le disait, n'ayez pas peur. Le Christ nous disait lui-même, n'ayez pas peur. Celui qui a peur de la mort, c'est celui qui ne croit plus au Christ, qui ne croit plus que Christ peut le ressusciter d'entre les morts. Il a vaincu la mort, il nous l'a dit, il nous a promis la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Celui qui me goûte ne connaîtra pas la mort. Il nous l'a dit, oui ou non? Alors quand nous allons à la messe, que nous nous agenouillons devant l'hostie, pourquoi est-ce qu'il y a eu des gels hydroalcooliques à la place de l'eau bénite? Pourquoi les gens gardent encore le masque? Certains, même en plein air, mais c'est absurde. Le transhumanisme, c'est ça aussi. C'est une autre des tentacules dont j'ai peu parlé du transhumanisme, du transinhumanisme, qui est le règne de l'inhumain, de la technocratie, qui envahit c'est tout, vrai. La médecine, la génétique, la société, la science, la neuroscience, tout. Et on l'a vu pendant la crise dite du Covid, les gens avaient peur, même dans les forêts, en pleine nature, ils gardaient le masque. C'est totalement irrationnel, c'est devenu la nouvelle religion, dogme, le dogme de l'hygiénisme. Or le nazisme, on en parle beaucoup, dans le nazisme de l'extermination de certaines minorités. Mais n'oublions pas que le nazisme, on parle peut-être que de ça pour occulter une chose aussi importante, que le nazisme a commencé par la traque à ce qui n'était pas hygiéniquement conforme. C'est-à-dire, d'abord, la traque aussi pour les nazis, aux handicapés. Les premières victimes des nazis n'ont pas été les juifs, les tziganes ou les homosexuels. C'était avant tout les handicapés. Et ils parlaient eux-mêmes de mort miséricordieuse. de mort compassionnelle, miséricordieuse, ça ne vous rappelle rien.
Donc là, on relie un petit peu l'histoire.
Pour des sujets économiques, entre autres.
On est d'accord.
L'espérance du chrétien, c'est de croire que de ne pas s'arrêter à l'illusion, voilà, de cette vie qui s'arrêterait ici, mais à la vie toujours avec le Christ, à la vie dans l'amour.
Alors vous nous rappelez dans ces quelques minutes, il est bon pour, je dirais, rester, je dirais, en éveil, éclairé à la suite du Christ, de ne pas avoir peur. Et le Christ lui-même nous le redit, je ne sais combien de fois dans, je dirais, la Sainte Écriture, n'ayez pas peur. Donc n'ayez pas peur. Je n'aurai pas peur de vous retrouver dès demain, Véronique Lévy, dans cette série des clés pour vivre, pour avoir, je dirais... des clés pour discerner où se trouve le vrai, le juste et le bon combat. À demain, même lieu, même heure, et merci.